Vous écoutez, on lit pour vous.
La rémunération des PDG a augmenté 56 fois plus que celle des salariés depuis 2019, selon Oxfam. Un texte d'Alex Fontaine paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir. La rémunération moyenne des PDG à travers le monde a augmenté 56 fois plus que celle du personnel salarié entre 2019 et 2024, révèle une étude d'Oxfam rendue publique jeudi le 1er mai 2025. Les PDG de par le monde ont touché en moyenne 4,3 millions de dollars américains en 2024, une hausse réelle qui tient compte de l'effet de l'inflation de 50% par rapport à 2019. L'augmentation de la rémunération moyenne pour les employés salariés a quant à elle été de 0,9%, sur la même période, soit 56 fois moins que celle des dirigeants. Au Canada, ce ratio est un peu moins prononcé. Les PDG ont vu leur rémunération moyenne augmenter de 66 % entre 2019 et 2024 pour s'établir à 1,65 million de dollars canadiens. C'est environ 19 fois plus que l'augmentation des salariés qui s'est élevée de 3 %. En ce qui a trait au montant absolu de la rémunération des PDG, l'Irlande et l'Allemagne se distinguent avec des gains s'élevant respectivement à 6,7 millions et 4,7 millions de dollars américains en 2024. D'année en année, la rémunération des PDG explose tandis que le salaire des employés et employés stagne quasiment, affirme dans un communiqué le directeur général d'Oxfam International, Amitabh Béard. « Il ne s'agit pas d'une faille du système », soutient-il. « Il concentre toujours plus les richesses entre les mains des plus riches, tandis que des millions de travailleurs et travailleuses peinent à payer leur loyer, à se nourrir et à se soigner. » L'organisme publie cette analyse dans le cadre de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs qui se tient annuellement le 1er mai. On y apprend aussi que les salaires réels ont augmenté de 2,7% en moyenne dans le monde en 2024, selon les données de l'Organisation internationale du travail. Une rémunération genrée. L'écart salarial moyen entre les hommes et les femmes a diminué entre 2022 et 2023, la dernière année où des données étaient disponibles, passant de 27% à 22%, calcul Oxfam, à partir d'un échantillon de données provenant de 11 366 entreprises situées dans 82 pays. Les entreprises japonaises et sud-coréennes ont parmi les pires bilans en la matière. L'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes s'élevait à près de 40 % en 2023, estime Oxfam. Le Canada fait mieux, avec un écart de rémunération de 16 % dans les 262 entreprises ayant partagé ces informations. Signe des temps, une nouvelle menace se présente pour les personnes salariées, selon l'organisation. L'imposition de tarifs douaniers américains. Ces politiques nuiront non seulement aux classes populaires des États-Unis, mais surtout aux personnes qui tentent de sortir de la pauvreté dans certains des pays les plus pauvres du monde, prévient Amitabh Béard. Les recommandations d'Oxfam. L'analyste politique d'Oxfam Québec, Julie McClatchy, rappelle qu'au Canada, les 100 PDG les mieux rémunérés ont gagné en moyenne 210 fois plus que le salaire moyen des travailleurs en 2023. Selon elle, c'est le reflet d'un système fiscal injuste. Elle appelle le gouvernement fédéral à mettre fin aux privilèges fiscaux des plus riches. Pour ce faire, Oxfam préconise notamment l'adoption d'un taux d'imposition marginal d'au moins 75 % sur les plus hauts revenus, afin de décourager les rémunérations astronomiques des PDG d'entreprise. L'organisme recommande également l'implantation d'un impôt sur la fortune et sur les successions de plus de 5 millions de dollars, de même qu'une taxe sur les profits excédentaires des grandes entreprises et un impôt minimum mondial de 25 % sur les multinationales. Les données portant sur la rémunération des PDG incluent les salaires, les primes et les options d'achat d'actions. Elle porte sur près de 2000 entreprises implantées dans 35 pays où la rémunération des PDG a dépassé 1 million de dollars en 2024. La rémunération moyenne des PDG au Canada a été calculée selon un échantillon de 284 entreprises. Enfin, le salaire des employés salariés a été calculé à partir des données de l'Organisation internationale du travail. C'était « La rémunération des PDG a augmenté 56 fois plus que celle des salariés depuis 2019 selon Oxfam », un texte d'Alex Fontaine paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir.
Ozempic naturel. Comment augmenter son taux de GLP-1 sans médicaments? Un texte de Mary J. Skourboutakos, paru le 23 mai 2025 dans La Conversation. Si les médicaments à base de sémaglutide tels qu'Ozempic et Wegovy sont populaires pour la perte de poids, des études révèlent que la plupart des gens préfèrent maigrir sans médicaments. Pour ces personnes, il est intéressant de savoir que certains nutriments et stratégies alimentaires pourraient imiter naturellement les effets du sémaglutide. Une consommation accrue de fibres et de gras monoinsaturés, présents entre autres dans l'huile d'olive et les avocats, le moment où l'on prend ses repas, l'ordre dans lequel on mange les aliments, la vitesse à laquelle on mange et même la mastication peuvent stimuler la production de l'hormone responsable des effets du sémaglutide. Médecin de famille et titulaire d'un doctorat en nutrition, je traduis les récentes découvertes scientifiques en matière de nutrition en recommandations diététiques pour mes patients. Une approche stratégique de la perte de poids fondée sur les dernières connaissances scientifiques est non seulement supérieure au calcul des calories, mais elle repose également sur les mêmes mécanismes biologiques que les médicaments amaigrissants populaires. Les médicaments à base de sémaglutide agissent en augmentant les taux de l'hormone GLP-1, peptide 1 de type glucagon, qui entraîne une sensation de satiété et ralentit la digestion. Ils réduisent également les niveaux de DPP-4, une enzyme qui inactive le GLP-1. Sous forme de médicaments, cette hormone coupe-faim, qui reste habituellement dans l'organisme pendant quelques minutes, demeure présente pendant toute une semaine. Cela engendre une sensation de satiété semi-permanente, comme si on venait de manger, et entraîne une diminution de l'apport alimentaire et une perte de poids. Les médicaments ne sont toutefois pas l'unique moyen d'augmenter le taux de GLP-1. Ce qu'on mange. Les fibres, qu'on trouve principalement dans les haricots, les légumes, les céréales complètes, les noix et les graines, sont les nutriments qui peuvent le plus augmenter le taux de GLP-1. La fermentation des fibres par les billions de bactéries présentes dans nos intestins produit des acides gras à chaîne courte qui stimulent la sécrétion de GLP-1. Cela pourrait expliquer pourquoi la consommation de fibres constitue un des meilleurs prédicteurs de la perte de poids et pourquoi elle permet de maigrir même en l'absence de restrictions caloriques. La graisse monoinsaturée, qu'on trouve entre autres dans l'huile d'olive et d'avocat, entraîne également la production de GLP-1. Une étude a montré que le taux de GLP-1 était plus élevé après avoir consommé du pain avec de l'huile d'olive que du pain avec du beurre. Par ailleurs, le pain consommé avec n'importe quel type de graisse, qu'il s'agisse de beurre ou même de fromage, augmente davantage le taux de GLP-1 que le pain seul. Une autre étude a indiqué que le fait de manger un avocat avec un bagel au petit déjeuner augmentait davantage le taux de GLP-1 qu'un bagel seul. Les fruits à coque, comme les pistaches, riches en fibres et en gras monoinsaturés, ont également cet effet. Comment on mange? Cependant, consommer des aliments et des nutriments qui augmentent le taux de GLP-1 ne suffit pas. Cette hormone illustre bien le fait que ce n'est pas seulement ce qu'on mange qui compte, mais aussi la façon dont on le fait. Des études montrent que l'ordre dans lequel les aliments sont consommés influence la sécrétion de GLP-1. Ainsi, prendre des protéines, comme du poisson ou de la viande, avant des glucides, comme du riz, augmente le taux de GLP-1 par rapport à la consommation dans l'ordre inverse. Le même effet est observé quand on mange des légumes avant les glucides. Le moment de la journée a également de l'importance car, comme toutes les hormones, le GLP-1 suit un rythme circadien. À titre d'exemple, un repas pris à 8 heures stimule davantage la libération de GLP-1 que le même repas pris à 17 heures. Le vieux dicton « manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir » serait étayé par des études qui montrent qu'on perd davantage de poids lorsque le déjeuner est le repas le plus copieux de la journée et le souper le plus léger. La vitesse à laquelle on mange est également importante. Il a été démontré que manger de la crème glacée en 30 minutes produisait un niveau de GLP-1 significativement plus élevé que la manger en 5 minutes. Toutefois, des études sur la réponse glycémique indiquent que si l'on commence par manger des légumes, la vitesse d'ingestion a moins d'importance. La mastication compte aussi. Une étude a montré qu'on augmentait davantage son taux de GLP-1 en mangeant du chou râpé que de la purée de chou. Moins efficace que les médicaments. Si certains aliments et des stratégies alimentaires peuvent naturellement augmenter le taux de GLP-1, l'ampleur de cette hausse est bien moindre que celle qu'on obtient avec des médicaments. Une étude portant sur l'influence du régime méditerranéen sur le GLP-1 a démontré qu'il permettait d'atteindre un niveau maximal de GLP-1 d'environ 59 picogrammes par millilitre de sérum sanguin. Selon la monographie d'Ozempic, la dose la plus faible produit un taux de GLP-1 de 65 nanogrammes par millilitre, un nanogramme équivalent à 1000 picogrammes. Les médicaments augmentent donc le taux de GLP-1 plus de 1000 fois plus que le régime alimentaire. Cependant, si l'on observe les effets à long terme, le régime méditerranéen réduit de 30 % les risques de maladies cardiaques, ce qui est supérieur aux médicaments GLP-1 qui les réduisent de 20 %. Si la perte de poids est plus rapide avec les médicaments, les approches diététiques sont supérieures pour la santé globale. Voici quelques stratégies efficaces pour les personnes qui souhaitent perdre du poids sans prendre de médicaments. Manger le matin, faire du déjeuner le repas le plus important de la journée, du moins manger davantage dans la première partie de la journée, manger au moins un aliment riche en fibres à chaque repas, consommer de l'huile d'olive sur une base régulière, tenir compte de l'ordre dans lequel on consomme les aliments en mangeant les protéines et les légumes avant les glucides, manger des noix comme collation, bien mastiquer, manger lentement. Si les méthodes naturelles pour augmenter le taux de GLP-1 ne sont pas aussi efficaces que les médicaments, elles permettent toutefois d'adopter une approche saine de la perte de poids sans recourir à la médication. C'était Ozempic naturel. Comment augmenter son taux de GLP-1 sans médicaments? Un texte de Mary J. Skourboutakos, paru le 23 mai 2025 dans La Conversation.
Les mystérieuses traboules de Lyon, un texte de Mario Girard, paru le 18 mai 2025 dans La Presse. La ville de Lyon est reconnue pour ses bouchons, ses petits restaurants où l'on sert des spécialités régionales. C'est aussi le berceau de la soie, de l'art de la marionnette et du cinéma. Rappelons que les Frères Lumière ont tourné les premières images de ce qui allait devenir le 7e art dans les hangars de leur entreprise lyonnaise. Mais cette ancienne cité de l'Empire romain, au confluent du Rhône et de la Saône, a aussi la particularité de posséder un très grand nombre de traboules. Dès votre arrivée dans cette métropole, on vous parlera de ces pittoresques passages piétons très étroits qui permettent d'accéder à des cours intérieures et de communiquer d'une rue à une autre. Leur présence suscite la curiosité et l'émerveillement des visiteurs. S'engager dans les traboules, on peut aussi dire trabouler, permet de traverser le temps. D'ailleurs, on affirme que le mot trabouler vient du latin trans, ambulare, qui signifie passer à travers. L'origine des traboules demeure mystérieuse. On pense qu'elle remonterait à la fin de l'époque romaine et au début du Moyen Âge. Quand les habitants du pied de la colline de Fourvière manquaient d'eau, ils pouvaient emprunter ces passages pour accéder aux puits de la ville. On dit aussi que ces passages permettaient aux habitants du Moyen Âge de rejoindre plus facilement les bateaux amarrés sur la Saône. Les traboules auraient aussi permis aux résistants lyonnais de déjouer l'ennemi durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tout cela est vrai? Les historiens trouvent que les traboules attirent trop facilement les mythes. Quoi qu'il en soit, les traboules demeurent un immense plaisir pour les yeux. Elles mènent à des cours, des escaliers à vis, des façades et des galeries dont la beauté est à couper le souffle. Reconnues par l'UNESCO, elles sont inscrites au patrimoine mondial depuis 1998. Lyon compte près de 500 traboules. Elles sont situées dans le Vieux Lyon, 200, dans la Presqu'île, 130, et dans les pentes abruptes du quartier de la Croix-Rousse, 160, là où évoluaient les fabricants de soie. Une cinquantaine de traboules sont ouvertes aux visiteurs. Si on peut s'engager librement dans ces passages qui font partie de propriétés privées, c'est grâce à des conventions signées entre les propriétaires et la municipalité au début des années 1990. En permettant l'accès au public, les propriétaires reçoivent de la ville une aide qui assure l'entretien, la réparation des sols et de l'éclairage, ou encore le nettoyage des graffitis. Au-delà des traboules, on peut visiter les traboules par soi-même à partir de listes publiées dans des guides touristiques ou sur le web, ou le faire en compagnie d'un guide. C'est ce que nous avons fait. On doit s'inscrire à ces visites sur des sites web ou en se rendant directement au pavillon de l'Office du tourisme situé Place Bellecour, en plein cœur de Lyon. Ces visites à pied d'une durée de 2 à 3 heures vous permettent d'aller au-delà des traboules. Notre guide, qui possédait une grande expérience, nous a parlé avec autant d'aisance de l'empereur Auguste que d'André Malraux, qui est venu à la rescousse du quartier historique de Lyon dans les années 1960. Les traboules sont toutefois aujourd'hui victimes de leur immense succès. Comme plusieurs quartiers historiques des grandes villes, celui du Vieux Lyon souffre de surtourisme. La ville a accueilli près de 9 millions de visiteurs en 2023. En haute saison, il est difficile de circuler dans la rue Saint-Jean, colonne vertébrale et touristique de Lyon. Les groupes de touristes agglutinés autour d'un guide sont nombreux. On les voit patienter devant une porte, dans l'espoir de pouvoir s'engouffrer dans une traboule. Pour certains locataires ou propriétaires qui doivent emprunter les traboules pour rentrer chez eux, la situation est devenue invivable. Imaginez un peu, vous devez faire la queue derrière une quinzaine de touristes avant de pouvoir pousser votre porte. Il n'est pas rare que certains propriétaires ferment temporairement l'accès à leur cour ou à leur traboule afin de jouir d'un moment de tranquillité. Ne soyez donc pas surpris de vous retrouver devant une porte close. Si, au contraire, le champ est libre, faites preuve de discrétion. Le silence est de mise. Conservez vos commentaires pour le repas que vous prendrez après. Il sera sans doute composé d'œufs en murette ou de saucissons chauds accompagnés d'un verre de Beaujolais. Il n'y a pas de doute, la vie est douce dans cette ville, sans doute l'une des plus belles de France. 5 cours et traboules à ne pas manquer dans le Vieux Lyon. 1. L'une des plus belles traboules relie le 27 rue Saint-Jean au 6 rue des Trois-Maries. On l'emprunte par l'entrée de la rue Saint-Jean. Les escaliers et galeries sont ornés de coloris utilisés au XVIe siècle. La seconde cour abrite des galeries d'inspiration italienne. 2. La plus longue traboule de Lyon se nomme tout simplement la Longue Traboule. Elle est située entre le 54 rue Saint-Jean et le 27 rue du Bœuf. Elle traverse 4 cours et 4 bâtiments. Cette traboule est utilisée quotidiennement par les habitants car elle continue d'être un raccourci utile. 3. La Maison des Avocats, cour et jardin de la Basoche, est située rue de la Bombarde. Le temps s'arrête dans cette cour dotée d'un jardin magnifique. Le bâtiment héberge aujourd'hui le musée cinéma et miniature qui mérite une visite. 4. La cour et la traboule du 2, place du gouvernement, sont incontournables. Le bâtiment du XVIe siècle qui abritait l'hôtellerie de Saint-Christophe a conservé quelques éléments de son décor gothique. La traboule rejoint le quai Romain-Rolland. 5. La traboule qui relie le 40 rue Saint-Jean au 5 place Neuve Saint-Jean est réputée pour son cheminement coudé. La très belle façade est souvent photographiée par les touristes. Une petite fontaine à tête de lion précède la grille. C'était « Les mystérieuses traboules de Lyon », un texte de Mario Girard, paru le 18 mai 2025 dans la presse.
Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme, Kelly Gallagher. Un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Kelly Gallagher, athlète, première britannique, a gagné une médaille d'or aux Jeux paralympiques d'hiver en Super-G à Sochi en 2014. Kelly Gallagher est championne de ski alpin. Elle vient d'Irlande du Nord et elle est malvoyante en raison de son albinisme oculo-cutané. Avec sa coéquipière, Charlotte Evans, qui lui sert de guide, elle a obtenu la première médaille d'or jamais gagnée par la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014, en Super-G. Ce qui est incroyable, c'est que c'est grâce à la compétition sportive que je contribue à améliorer la vie des gens, affirme Kelly. Je suis enchantée que la couverture médiatique des Jeux paralympiques de Sochi 2014 ait donné une image positive des personnes atteintes d'albinisme. Skier à la vitesse de 110 km/h devant un public mondial est un véritable plaisir et j'ai l'impression que cela permet de changer la perception et l'attitude des gens vis-à-vis du handicap. Mon guide, Charlotte Evans, et moi avons été stupéfaites de nous retrouver en couverture des journaux et dans des programmes de télévision nationaux lorsque nous avons gagné notre médaille d'or historique. Protection. J'ai eu la chance de naître dans une société où, avant moi, des pionniers avaient lutté d'arrache-pied en faveur de l'égalité pour les personnes vivant avec des handicaps. L'égalité est inscrite dans notre législation, notamment dans la loi sur la discrimination contre le handicap et dans la section 75 relative à l'Irlande du Nord. Alors, j'ai pu grandement bénéficier du travail accompli par d'autres avant moi, ce qui m'a permis d'avoir accès à une éducation de qualité et d'opter pour la carrière de mon choix. Oui, j'ai l'air différent des autres femmes. J'ai les cheveux très blonds. Je porte habituellement des lunettes de soleil. Sinon, je louche quand la lumière est éclatante. Et je lis au moyen d'une loupe. Mais, grâce à mes parents, j'ai grandi avec la certitude de ne pas être différente des autres. En fait, la plupart de mes amis, ici en Irlande, ont la peau claire. Et nous sommes nombreux à porter des lunettes de soleil, des lunettes ou des lentilles de contact. Alors, en fait, avec le temps, la différence a de moins en moins d'importance. Inclusion. Il est essentiel de donner une connotation positive à l'albinisme dans les médias et de sensibiliser les communautés et les écoles à ce qu'est vraiment cette maladie. J'ai beaucoup de chance parce qu'en apparence, je suis relativement semblable à mes pairs dans nos sociétés. Et j'ai la chance d'être née dans l'hémisphère nord, où chacun a accès à des soins dermatologiques de qualité. Je sais cependant que dans d'autres pays, la prévalence du cancer de la peau est élevée chez les personnes et les familles touchées par l'albinisme à cause des lacunes dans la gestion, les informations et l'accès à de bons soins dermatologiques, et que certaines personnes sont ostracisées dans leur communauté et persécutées parce qu'elles ont l'air différentes. Aspiration en matière de droits de l'homme. Mon objectif et mon rêve pour tous ceux qui vivent avec l'albinisme, c'est qu'ils puissent vivre à l'abri de la discrimination et de l'injustice, avoir accès à des soins de santé pour être mieux à même de protéger leur peau des effets nocifs de l'exposition au soleil et avoir accès à la technologie et à l'optométrie pour que chacun puisse réaliser son rêve et son potentiel. C'était « Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme » Kelly Gallagher. Un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.